Les paractualités.
Bonjour à vous toutes et vous tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 mai de... Mardi, pardon. Oui, c'est vrai, 23 mai. Merci beaucoup, Maurice. 23 mai, donc, disais-je, 2017. Ce sont les paractualités présentées pour vous par Clotilde Seille. Et les titres du jour, Via Rail adapte ses politiques pour les passagers à mobilité réduite. Et puis, des parents rongés par l'inquiétude supplient le gouvernement du Québec de mettre en place des centres de jour qui accueilleront leurs enfants lourdement handicapés lorsque ceux-ci atteindront l'âge de 21 ans. Une entrevue avec Mireille Tremblay, instigatrice de la formation Droit, citoyenneté et handicap. Également aujourd'hui, un patient enfin admis en réadaptation intensive et au Québec, des locataires prisonniers depuis quelques jours dans leur appartement faute d'ascenseur. Une autre entrevue avec Isabelle Côté, la directrice générale du Théâtre aphasique. Et puis on ira du côté de Sudbury où les commerces deviendront sans doute beaucoup plus accessibles. Alors, lu ce matin dans Radio-Canada, un article écrit conjointement avec la presse canadienne, la compagnie ferroviaire avait contesté en cour d'appel cette décision qui doit permettre le transport de plus d'un fauteuil roulant non démonté à la fois dans ses trains, mais sans succès. Et là, voilà que Via Rail va adapter ses politiques pour les passagers à mobilité réduite. Les trains disposent d'un emplacement précis pour attacher un fauteuil roulant ou un triporteur électrique. Mais jusqu'à présent, il n'y avait de la place que pour un seul. Les autres véhicules pour personnes à mobilité réduite devaient être démontés et rangés dans l'espace assigné aux bagages, risquant même de les endommager. La nouvelle politique, qui est déjà en place, mais doit encore être examinée par l'OTC, énonce que les trains ne disposeront toujours que d'un seul emplacement réservé, mais que deux fauteuils roulants pourront y être attachés si les passagers peuvent occuper des sièges. Ces changements font en sorte que les personnes à mobilité réduite n'ont plus à démonter leur fauteuil et ne risquent plus de l'endommager dans le compartiment à bagages. La nouvelle politique donne aussi le droit aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant de prendre la place d'un autre passager en fonction de la gravité de leur handicap. Marie Murphy, 54 ans, et son mari, Martin Anderson, 47 ans, sont tous les deux atteints de paralysie cérébrale et se déplacent en triporteur électrique. Alors que la décision de la compagnie ferroviaire répond à leur demande spécifique, Marie Murphy se demande, elle, si elle permet toutefois de rendre les trains plus généralement accessibles. Marie Murphy croit que cela va monter les personnes handicapées les unes contre les autres et que la compagnie n'adhère donc pas à l'esprit de la décision de l'OTC. D'ailleurs, la semaine dernière, alors qu'elle devait prendre le train pour se rendre à Windsor, l'emplacement était déjà réservé par une personne qui ne pouvait pas occuper un siège du train. Elle a alors préféré annuler son déplacement plutôt que de risquer d'endommager son triporteur dans le compartiment à bagages. Des parents rongés par l'inquiétude supplient le gouvernement du Québec de mettre en place des centres de jour qui accueilleront leurs enfants lourdement handicapés lorsque ceux-ci atteindront l'âge de 21 ans. Toute notre vie, depuis la naissance de nos enfants, on se bat. On s'est battu quand ils sont nés pour qu'ils survivent. On s'est battu contre notre tristesse, notre deuil. On s'est battu pour des places en garderie, pour qu'ils soient vus par des médecins, pour qu'ils aient accès à des services. Et là, ils vont avoir 21 ans et on se bat encore, dénonce Marie-Claude Sénécal, une enseignante de Montréal. Madame Sénécal est la maman de Joanie Prévost, une jeune femme laissée sévèrement handicapée par une hémorragie cérébrale à sa naissance. À 16 ans, Joanie ne peut ni parler, ni marcher, ni se nourrir par elle-même. Elle aura 21 ans dans 5 ans. La maman monoparentale devra faire face à un terrible choix, cesser de travailler pour prendre soin de sa fille ou la placer en famille d'accueil ou en CHSLD. Pour Madame Sénécal, il n'y a aucune option qui n'est envisageable. Avec l'aide d'autres parents, elle a donc créé le regroupement Parents aidants pour la vie, qui demande au gouvernement de mettre en place des centres de jour pour les personnes polyhandicapées de 21 ans et plus. Une pétition en ce sens a d'ailleurs été lancée sur le site de l'Assemblée nationale avec l'appui du député de Québec solidaire Amir Kadir. La ministre déléguée à la réadaptation, Lucie Charlebois, s'est engagée à envoyer des membres de son cabinet visiter l'école Joseph Charbonneau et à écouter les requêtes du regroupement de parents d'ici la mi-juin. Dans un CHSLD, ce serait épouvantable, lance Marie-Claude Sénécal. Joanie est capable de se déplacer à quatre pattes, mais elle n'a aucune conscience du danger. Alors elle serait attachée dans un lit à crier au meurtre pendant des heures. Non seulement l'hébergement en CHSLD oblige les jeunes adultes polyhandicapés à faire le deuil de leurs amis et à cohabiter avec des personnes âgées, mais cette solution coûte très, très cher à l'État, rappelle la maman. On estime en effet qu'un résident handicapé nécessite de 100 000 à 120 000 $ de soins par année. Je vais maintenant m'entretenir avec Mireille Tremblay, qui est instigatrice de la formation Droit, citoyenneté et handicap, stratégie d'émancipation. Ça va se tenir du 12 au 16 juin prochain. Madame Tremblay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure associée au département de communication sociale et publique à la faculté de communication à l'UQAM, c'est bien cela?
Exact.
Alors, c'est vous qui êtes vraiment l'instigatrice de cette formation qui s'intitule « Droit, citoyenneté et handicap », c'est bien ça?
Oui, mais on est un collectif
d'un
certain nombre de professeurs. Et c'est issu d'un programme qu'on a développé en 2004 avec des personnes en situation de handicap sur l'éducation à la citoyenneté démocratique. Et les personnes qui étaient en situation de handicap voulaient qu'on développe une formation dans la foulée des ce qu'on appelle les disability studies, les études sur le handicap.
Oui.
Voulaient qu'on développe une formation universitaire lors de fil en aiguille. On est arrivé à développer ce programme-là.
Alors, quel est l'objectif de cette formation-là?
L'objectif, c'est de permettre, on cherche à créer une rencontre entre le milieu de la recherche et de l'enseignement, le milieu de l'intervention et les personnes en situation de handicap. Et c'est un processus d'appropriation des droits. Ce qu'on cherche à identifier, ce sont des stratégies de promotion d'exercice des droits des personnes en situation de handicap. Et c'est la sixième semaine qu'on fait de ce type-là, qui est tripartite, mais cette fois-ci, c'est dans le cadre d'un cours, donc c'est reconnu, soutenu par l'université. Donc, il y aura un certain nombre d'étudiants inscrits au cours, des intervenants, des chercheurs, et on a à peu près une trentaine de personnes qui viennent de l'extérieur, soit de l'île de la Réunion, de Namur en Belgique, de Paris, de l'île en France, du Luxembourg, évidemment des personnes du Québec. Qui sont des personnes en situation de handicap. Donc, c'est vraiment une rencontre qui nous permet de rechercher des stratégies d'émancipation et d'exercice des droits.
Et d'échanger, peut-être aussi.
Oui.
Hein, parce que si vous me dites qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur, j'imagine qu'on échange, on partage.
Exact. Et tous les intervenants, que ce soit les enseignants, les éducateurs, les personnes en situation de handicap, ont fait des démarches d'appropriation des droits déjà, ont développé des stratégies de prise de parole, puis de promotion et d'exercice de leurs droits. Donc, c'est ça qu'on met en commun.
Quels sont les principaux problèmes à affronter?
Ah, mon Dieu, il y en a dans tous les domaines.
Oui, hein?
On catégorise les droits en trois grandes catégories de droits. Les droits civils, protéger des abus de la violence, droits socio-économiques et culturels, participer au travail, au loisir, à l'école, etc., et les droits politiques. Dans la catégorie des droits civils, les personnes témoignent du harcèlement dont elles sont souvent victimes.
Ça, c'est un véritable fléau. Hein? C'est encore vrai maintenant. Hein?
Exact.
Quelle horreur.
Et puis, on travaille avec toutes les catégories de handicap, donc que ce soit en moteur ou au départ, on travaille avec des personnes ayant une déficience intellectuelle. Donc, dépendamment du handicap, la plupart subissent du harcèlement ou du rejet ou de l'exclusion. Maintenant, quand on arrive au travail, au loisir, à l'éducation, ça aussi, c'est très compliqué. Accéder à l'école régulière, avoir des diplômes, on sait que les personnes en situation de handicap sont moins diplômées que le reste de la population, ont moins accès au milieu du travail. Et après, quand on arrive au droit politique, eh bien là, c'est la catégorie de droit qui est la moins exercée.
Bien
déjà,
sûr.
Accéder au bulletin, au bureau de vote, ça peut être problématique pour plusieurs personnes. Comprendre le bulletin de vote, ça peut être difficile. Et devenir député, personnage public, c'est encore plus
difficile, effectivement.
Exactement.
Alors, qui sont les intervenants principaux? Parce que tout le monde ne va pas intervenir au micro. Comment ça se passe? Et qui va intervenir là-dedans dans cette formation?
On a à peu près, une trentaine d'intervenants, probablement. C'est 10 ateliers de 3 heures.
D'accord.
Et pour chacun des ateliers, il y a environ de 3 à 6 panélistes. Dans la première heure et demie, les panélistes vont faire état de leur expertise, de leur lecture, des questionnements qui sont les leurs. Discuter avec les participants, à chacun des blocs de 3 heures.
Oui,
et
oui.
ensuite, il y a une deuxième heure et demie, la deuxième partie. C'est vraiment un échange entre l'ensemble des personnes qui participent à l'atelier.
Mm-hmm. Alors, on peut s'inscrire encore?
Oui.
Oui, d'accord. Alors, où, comment, par où on passe?
Il y a deux possibilités d'inscription. On peut s'inscrire comme étudiant, aller chercher les 3 crédits. C'est un cours de deuxième cycle. Donc, ça peut être soit un cours optionnel pour un étudiant qui est inscrit dans un programme ou soit un cours régulier, selon ce que son programme peut accepter.
C'est quoi? Ils sont en sociologie? Ils sont en psycho? Multifacultaire,
multidisciplinaire.
D'accord.
Socio-psycho, sexologie, travail social.
D'accord.
Et on peut aussi s'inscrire comme auditeur libre pour l'atelier ou les ateliers de son choix.
OK.
Dans les deux cas, ce que les gens doivent faire, c'est m'adresser un courriel.
Oui, OK. Alors, donc, quel est-il exactement? Parce que je sais que par l'UQAM, ça peut être un petit peu long, peut-être?
Oui. Alors, c'est Tremblay.
Oui.
Point Mireille.
D'accord.
Barre de soulignement P, comme dans Pinard.
Oui.
@
Oui.
UQAM.ca.
Alors, je me rappelle ça pour les auditeurs. Tremblay, donc
oui.
Votre nom, point Mireille, votre prénom.
Exact.
Barre de soulignement en dessous, P comme Pinard ou Papa, @UQAM.ca. C'est bien
exact.
Ça? Parfait.
Oui.
Alors donc, c'est bien noté. Madame Tremblay, merci beaucoup d'avoir mis ça sur pied avec cette équipe et je vous souhaite bonne chance. Et j'espère surtout que les rapports suite à ces ateliers-là vont atterrir sur les bons bureaux.
Oui, j'espère aussi.
Merci, Madame Tremblay. Bonne fin de journée.
À vous aussi. Au revoir.
Au revoir. Nous en avions parlé de ce patient qui attendait désespérément d'être admis en réadaptation intensive, écrit Joanne Roy, angoissée à l'idée de garder des séquelles de son accident vasculaire cérébral, hein, le fameux AVC. Un résident de Québec a pu être admis enfin en réadaptation intensive jeudi après un retard de plus de 2 semaines, imputable à un manque de médecins. Alors, le Journal de Montréal a fait état de ces inquiétudes de Marcel Brisson, dont les soins actifs étaient terminés à l'hôpital de l'Enfant Jésus depuis le 1er mai et qui attendait toujours son transfert à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, l'IRDPQ. Le cas de M. Brisson n'est pas unique. D'autres patients voient leur réadaptation retardée à l'IRDPQ à cause de la pénurie de médecins responsables des admissions. Au moins 2 postes d'omnipraticiens sont à combler en ce moment à l'IRDPQ à la suite des départs des derniers mois. C'est forcément une question de médecin si les admissions sont retardées. Ce n'est pas faute de place car il y a plusieurs lits de libre. Le ministre Barrette va se péter les bretelles que les médecins de famille sont plus assidus en cabinet. Mais à quel prix, constate la conjointe de M. Brisson, Suzanne Lavoie. Depuis l'arrivée de mon mari à l'IRDPQ jeudi midi, il a vu l'orthophoniste, l'ergothérapeute, la nutritionniste, le physiatre et le neuropsychologue, et cela en moins de 24 heures. C'est vraiment ce qu'on espérait. On est content, mais cela aurait dû se faire il y a 2 semaines et demie, critique Mme Lavoie, selon qui la réadaptation précoce est cruciale après un AVC. M. Brisson, 72 ans, devrait séjourner à l'IRDPQ durant au moins 2 mois. Il éprouve des problèmes d'équilibre et d'élocution. Sa motricité est également touchée du côté gauche, de son corps. À Québec, dans le soleil, Camille Bévincent parle de ses locataires qui sont prisonnières chez eux, faute d'ascenseur. L'ascenseur de l'immeuble où résident notamment Brigitte Lozière et Andréane Thibault est en panne depuis jeudi dernier et le restera jusqu'à au moins samedi prochain. En attendant, les 2 femmes qui se déplacent en fauteuil roulant sont prisonnières de leur logement et doivent mettre leur vie en veilleuse. Ce n'est pas normal d'appeler les pompiers pour pouvoir rentrer chez soi, lance Brigitte Lozière, 26 ans. Et c'est pourtant ce que se sont résignés à faire jeudi soir. Ses locataires, à mobilité réduite, du 170 avenue Bernatchez dans Vanier, après avoir appris que l'ascenseur était hors service. Parmi eux, Andréane Thibault, qui attendait au rez-de-chaussée depuis 5 heures. Le domaine du parc Savard offre 130 appartements dans 3 bâtiments adjacents de 4 étages chacun, et 31 de ces logements sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Selon Mme Lozière et Mme Thibault, qui ont emménagé dans l'un de ces logements neufs en 2013, c'est arrivé à 4 ou 5 reprises que ces ascenseurs tombent en panne. « J'ai l'impression qu'on rit de nous », dénonce Mme Thibault, 30 ans. Elle s'en prend ainsi à l'entreprise Otis, fabricant des ascenseurs du domaine du parc Savard, qui, selon elle, traite cette panne comme n'importe quel autre problème technique. En attendant que la situation soit rétablie, les autobus Paquin assureront le transport des locataires par les escaliers de l'immeuble, mais uniquement pour les services essentiels, soit le travail, les études et les rendez-vous médicaux, indiquent les colocataires. D'habitude, je sors tous les jours, dit Brigitte Lozière, enfermée dans son logement depuis jeudi. On a quand même une vie active, ça vient toucher notre intégrité, je trouve. Quand tu emménages en appartement, c'est pour avoir de l'autonomie, c'est pas pour être pris à l'intérieur de chez soi et ne pouvoir rien faire. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du théâtre aphasique. Eh bien, j'ai la chance de pouvoir m'entretenir avec Isabelle Côté, qui en est la directrice générale. Bonjour, Madame Côté.
Bonjour.
Alors, Madame Côté, à l'occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées et de la Semaine québécoise de sensibilisation à l'aphasie, votre théâtre, le théâtre aphasique, va présenter son spectacle Le Dernier Mot le vendredi 2 juin prochain à 19h. C'est bien ça?
Oui, à la belle salle, dans le bel auditorium de la Grande Bibliothèque.
Et vous êtes gâtée?
Tout à fait.
Et vous le méritez, madame.
Oh, on est content.
Alors, ce théâtre aphasique qui a invité des dramaturges hein, de talent à explorer ce thème du dernier mot.
Oui.
Alors, c'est un thème qui est intimement lié au défi de la communication.
Tout à fait.
Et qui nous rejoint un petit peu tous, finalement, hein,
à
cette réalité-là. Alors, parlez-nous-en un petit peu.
Ben nous, le théâtre aphasique, on est rendu à notre 10e production.
Oui.
Donc, il est clair qu'on a déjà parlé d'aphasie, on a déjà fait des pièces à partir de témoignages sur le vécu des personnes aphasiques, mais évidemment, on doit un peu aller ailleurs aussi. On ne peut pas ne parler que de ça. Et le thème, dans le fond, qui nous intéresse, nous, c'est bien sûr la communication ou la difficulté de communiquer. Puis ça, ben, ça rejoint pas juste les personnes aphasiques, évidemment.
Oh non!
Non. Alors voilà, c'est que nous, d'habitude, on a toujours fonctionné pendant plusieurs années avec des créations.
Oui.
Et pour nous, c'était ce qui était plus probable parce qu'on se disait, les personnes vont dire le texte et comme ça, on est sûr qu'ils sont capables de le dire parce que ça vient d'eux. Ensuite, on a vu que les possibilités étaient grandes, puis il y avait un désir d'aller ailleurs. Donc, on a fait un spectacle à partir de textes de Ionesco.
Okay.
Et là, ben, les gens ont réussi à relever le défi, c'était possible pour eux, puis on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la prochaine production?
Mais c'était osé un petit peu, excusez-moi de vous interrompre,
osé.
Parce que Ionesco, on sait qu'on est dans l'absurde.
Oui.
Alors, enfin, en tout cas, je ne sais pas ce que vous aviez monté, mais...
Un beau mélange en plus.
Un beau mélange.
Oui, 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 une adaptation de 3 pièces de Ionesco. C'est le metteur en scène, Richard Goulin, qui disait, en fait, c'est tellement absurde la situation d'être aphasique, c'est tellement fou de plus pouvoir être capable de communiquer normalement avec les gens alors que tout se passe bien dans le cerveau puis que la parole sort plus.
Mm-hmm.
Ben allons-y carrément dans l'absurde puis dans quelque chose qui nous amène ailleurs puis allons tenter du Ionesco.
Oui. Ben maintenant il faudrait faire du Raymond Queneau par exemple.
Tiens, oui, c'est vrai que ça
aussi ce serait pas mal.
Ah oui,
alors, mais là retour à votre pièce.
Ben, on a décidé nous de travailler avec des auteurs québécois puis on leur a dit ben écoutez, on vous donne un thème qui nous préoccupe puis on vous demande de faire une petite pièce, une courte pièce avec ça. C'est-à-dire que c'est une pièce d'une vingtaine de minutes.
OK, d'accord.
Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une courte pointe de ces textes-là. Donc, il y a 6 auteurs qui ont répondu à notre appel, 6 auteurs qui ont écrit des pièces pour nous.
Mm-hmm.
Et là, ça nous permet, nous, d'avoir 6 petites pièces comme ça qui peuvent se jouer ensemble ou séparément. Et donc, quand je vous dis de courte pointe, c'est que ça dépend de ce qu'on en fait. Donc, on présentera le 2 juin 3 de ces pièces-là.
D'accord.
Et c'est possible pour nous aussi d'aller jouer une pièce dans le cadre d'un événement. Bon, on joue justement le 25 mai, c'est le 40e anniversaire de l'étape.
Mm-hmm.
Et on nous a demandé un petit numéro. C'est possible pour nous à ce moment-là d'aller glisser une des pièces. Et puis, dans le cadre d'un autre événement, ce sera 2, puis ça pourra être 4, tout dépendant du temps dont on dispose.
Quels sont les auteurs que vous avez choisis cette année?
Nous avons eu l'extraordinaire Larry Tremblay qui a écrit un texte pour nous. On a François Archambault aussi, qui est très populaire ces temps-ci. On a aussi l'auteur qu'on connaît peu comme auteur de théâtre, Chantal Cadieux, qui est prolifique, elle plus, à la télévision, qui a écrit « Mémoire vive » et « Providence ».
Exactement.
Donc, qui nous a écrit une belle scène aussi. Et on a 3 jeunes auteurs qui sont finissants de l'École nationale de théâtre en écriture. Donc, on a Martin Bellemare, Olivier Sylvestre et Jean-Philippe Lehoux, qui sont des auteurs de plus en plus connus aussi, wow. qui ont fait l'École nationale.
Mais quelle bonne idée, en plus, d'avoir été cherché comme ça des jeunes.
Oui.
Bon, au niveau de vos comédiens, ça demande combien d'acteurs qui sont évidemment tous aphasiques?
Ils sont tous aphasiques. En fait, on triche un peu, je vous avoue.
Ah.
Ils ont tous fait un AVC.
Ah, OK.
Et donc, pour deux d'entre eux, entre autres, je dis deux, c'est trois, la conséquence de l'AVC, ça n'a pas nécessairement été l'aphasie. Donc, on fait un accident de vasculaire cérébral du côté droit. On n'est pas aphasique parce que c'est pas là qu'est la communication. La communication est du côté gauche. Par contre, on va avoir des difficultés du type de plus avoir d'expressivité ni dans la voix ni dans le visage.
Oh.
Alors, ça peut donner une espèce de visage très sévère.
Comme si on avait un masque neutre.
Oui, un peu robotique aussi, au niveau du ton et tout ça. Mmh. Alors, de toute façon, qu'ils soient aphasiques ou non, ces gens-là, évidemment, viennent rechercher cette sensibilité-là puis cette capacité-là de s'exprimer avec un peu plus de finesse. Là.
Oui.
Donc, on a trois comédiens comme ça qui ont fait des AVC ailleurs là, dans le cerveau,
d'accord.
Mais quand même, il y a une difficulté de communication. Ouais, on a comme ça 22 comédiens qui sont répartis dans les différents de production. Donc, ça fait des petites productions avec trois ou quatre comédiens dans chaque scène.
Et j'encourage tout le monde absolument à aller vous voir le vendredi 2 juin à 19h, à aller entendre, à aller voir ces comédiens fantastiques et ces très bons auteurs. Effectivement, moi, je connais moins bien, effectivement, Olivier Sylvestre, mais bon, Chantal Cadieux, elle a fait ses preuves. François Archambault aussi, tout ça. Alors, c'est mis en scène par vous-même, Isabelle Côté et Richard Gaulin.
Tout à fait.
C'est donc une production du Théâtre aphasique. Je le rappelle pour vous qui nous écoutez, c'est à l'auditeur de la Grande Bibliothèque, le vendredi 2 juin à 19h.
Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit, en plus.
Mm-hmm, c'est ça, c'est bien.
Ah, c'est fantastique. Puis 19h, c'est une bonne heure.
Ben oui.
Ça veut dire, c'est quasiment comme un début de soirée.
Voilà.
Et voilà.
Ça dure à peu près 1h30, le spectacle. Donc,
d'accord.
À 8h30, vous êtes libérés pour aller poursuivre et prendre un verre.
Eh bien, exactement. Eh bien, écoutez, bravo Isabelle Côté. Bonjour à toute votre équipe, aux comédiens, auteurs, co-metteurs en scène. Et puis, bonne chance pour cette soirée et pour toutes les autres qui suivront.
Merci, vous êtes bien gentil.
Mais je vous en prie, passez une très belle journée.
Merci, vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Par actualité nationale, les commerces de Sudbury deviendront-ils bientôt plus accessibles? Figurez-vous qu'un couple de Sudbury veut reproduire une initiative qui est née à Toronto il y a 6 ans. La ville du Nickel peut être un terrain hostile pour les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. La fondation Stop Gap, qui distribue gratuitement des rampes d'accès aux commerçants, pourrait changer la donne, mais le parcours s'annonce déjà difficile. C'est un texte de Joël Achac pour ici Radio-Canada, nord de l'Ontario. C'est un accident de plongée qui a rendu Daniel Lebrun quadriplégique alors qu'il n'était qu'un adolescent. 30 ans plus tard, profiter de ses passe-temps favoris, autrement dit les sorties entre amis, les concerts, demeure un combat quotidien. Plus du 3/4 des commerces ne sont pas accessibles à Sudbury, déplore l'homme de 46 ans. Il suffit que le seuil de la porte d'un commerce soit de plus de 5 cm de haut pour qu'il soit forcé de rebrousser chemin et de tenter sa chance autre part, une déception qu'il vit quotidiennement. Daniel et sa conjointe, Nadine Lowe, ont entendu parler de Stop Gap, une initiative lancée à Toronto en 2011. Le fondateur, Luke Anderson, un ancien athlète qui a perdu l'usage de ses jambes, a décidé de ne plus attendre la bonne volonté des commerçants. Il a pris les choses en main lui-même. Avec l'aide de bénévoles et de dons, il a distribué des centaines de rampes d'accès en bois dans la ville Rennes, et le tout gratuitement. Inspirée par le projet, Nadine Lowe a conclu un partenariat avec une école secondaire de Lively dans le sud-ouest du Grand Sudbury. Des apprentis charpentiers construiront les rampes à l'aide de bois achetés grâce à des dons ou de matériaux offerts par des fournisseurs locaux. Le couple espère que dès septembre, de nombreux commerces seront séduits par le projet, d'autant plus qu'ils n'ont pas besoin d'obtenir de permis puisque la rampe peut être facilement enlevée du trottoir et rangée en fin de journée. Cela coûte entre 100 et 350 dollars de construire une rampe, explique Nadine Lowe. C'est avec la générosité des gens et celle de fournisseurs de matériaux que l'on peut idéalement finir par les distribuer gratuitement aux commerçants. Mais l'accessibilité, c'est plus qu'une simple rampe. Lors d'une tournée au centre-ville, le couple s'est toutefois heurté à une autre réalité. La propriétaire d'un café qui n'a pas souhaité nous accorder une entrevue formelle, du moins une entrevue à Radio-Canada, a salué l'initiative, mais elle a expliqué que le fait d'installer une rampe d'accès impliquerait des changements pour le commerce tout entier. En effet, elle devrait acheter une porte à ouverture automatique. Elle devrait réduire la taille de son comptoir de vente et agrandir la porte de ses toilettes, entre autres. Des dépenses de plusieurs dizaines de milliers de dollars qui peuvent être un coup dur pour un petit commerce qui, comme le sien, vient d'ouvrir. La rampe Stop Gap n'est pas la réponse à tout, mais c'est un début, plaide malgré tout M. Lebrun. En sport, c'est une première mondiale, nous dit Alexandre Dalvet. 30 pilotes handicapés physiquement bouclent une course de 8 tours à moto. Des tribunes pleines à craquer pour soutenir les pilotes et beaucoup d'émotions samedi dernier sur le circuit Bugatti du Mans. Des pilotes ayant un handicap qui se tirent la bourre, expression très française, pardon, à des vitesses folles pendant 8 tours. Leurs motos ne sont pas des petites cylindrées. Les choses sont claires, ces 30 pilotes ne sont pas là pour faire de la figuration. Être sur la grille pour eux, c'est déjà une victoire. Pendant des mois, ils se sont préparés à cette course. Ils ont appris à rouler sur des motos adaptées, avec pour certains des boîtes de vitesse automatiques et des cale-pieds spéciaux. Amputés pour certains, paraplégiques pour d'autres. Mais ils ont tous un point commun. Vêtus de combinaisons de cuir d'un casque, ce sont des motards, des vrais, qui ont décidé de montrer que leur handicap n'est pas un frein. À leur passion pour la moto, ne serait-ce que pour pouvoir grimper dessus, les motards se font aider par des membres de leur équipe. Et puis ensuite, ne serait-ce que poser ses pieds sur les cale-pieds pour certains, cela peut déjà être un souci. Comme ils ne peuvent pas toucher terre, la moto est tenue pour, pour éviter de tomber. Et lorsque le départ est lancé, ils font deux tours de formation derrière une voiture de sécurité. Et puis, à 17h45, les visières se sont baissées. La voiture de sécurité s'est écartée, le grand départ a été donné et les motos se sont élancées pour un 8 tours historique. Sur les écrans, on voit les pilotes qui se dépassent, qui font un intérieur, qui prennent des virages en étant plus ou moins inclinés, avec le genou sorti pour certains ou rentré pour d'autres, tout dépendamment du handicap. Il suffit cependant de regarder les vitesses maximales enregistrées pour se rendre compte que les 30 motards n'ont pas fait semblant. 257,9 km/h notamment pour Stéphane Paulus. Voilà, ainsi ça achève les paractualités du jour. Je vous remercie infiniment de les avoir suivis. Je remercie mon équipe qui m'aide à la préparation de cette émission tous les matins. J'ai nommé Christiane Campagna et Maurice Bolduc à la régie. C'était Clotilde Say qui vous souhaite une bonne journée, qui vous dit à demain, 11h30.